La campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi a été lancée en avril 2016. Et depuis avril 2016, nous avons déjà documenté 107 cas de disparitions forcées. Si nous disons que nous avons documenté 107, cela ne signifie pas que depuis, il n'y a que 107 cas de disparitions forcées. Non, ce sont des cas sur lesquels nous avons mené des investigations et dont nous avons publié les résultats sur notre site web qui peut être consulté en ligne www.dondeza.org. Sinon, nous avons déjà reçu environ 300 cas sur lesquels nous continuons à mener des enquêtes. Et parmi les 107 cas que nous avons déjà documentés, nous trouvons que la quasi-majorité des victimes sont des militants de l'opposition, principalement des membres du parti MSD dirigé par Alexis Ndouyigé et des militants du FNL d'Agathon Rwasa. Mais nous avons aussi d'autres cas comme des pas mal de militaires de l'ancienne armée, communément appelée ex-FAB, dont la majorité sont des Tutsis, mais aussi quelques militaires ex-FNL. Nous avons aussi quelques cas de militaires ex-FTD ou des miliciens Imbonerakure qui ont disparu après avoir été soit utilisé dans la commission de crimes graves et le pouvoir a peur que ces gens pourraient un jour témoigner sur les crimes qui ont été commis ou bien soit qu'ils ont été considérés comme proches de l'opposition, notamment très proches des frondeurs du CNDD-FDD. Voilà, grosso modo, et les corps qui sont les plus impliqués dans les cas que nous avons documentés, c'est en premier lieu le Service national de renseignement. C'est ensuite la police nationale, le service du renseignement de l'armée et enfin les miliciens Imbonerakure qui collaborent aussi avec certains administratifs à la base. Ndondeza ne fait pas un travail de statistique comme la plupart d'autres organisations. Il y a pas mal d'associations qui, eux, juste comptent. Il ne faut que le décompte, on leur dit telle personne a disparu et ils ajoutent des cas sur les cas. Et pour ces organisations, aujourd'hui, ils arrivent à un chiffre à la ils parlent de 400 à 900 victimes de disparition forcée. Pour le FOCODE, on n'est pas dans l'estimatif. Le FOCODE, nous menons une enquête, une investigation sur un cas et nous publions lorsque nous avons rassemblé toutes les informations qui existent sur ce cas, soit les informations, d'abord prioritairement les informations provenant de la famille et des proches qui nous racontent l'identification qui donne à quel moment ils ont constaté la disparition du leur. Et après, nous cherchons toutes les informations qui sont passées par la presse. Et après la presse, c'est des sources internes que nous avons alors. Là, c'est parfois des informateurs que nous avons au sein de la police nationale, au sein du service national de renseignement, ou des témoins anonymes qui nous écrivent, qui disent « Oui, nous connaissons ce cas, nous étions témoins, nous étions sur place, nous connaissons réellement ce qui s'est passé. » Et voilà comment nous rassemblons toutes ces informations et nous essayons de voir dans quelle mesure il y a la cohérence entre les différentes informations obtenues sur un même cas. Donc, pour les 107 cas de disparition forcée sur lesquels nous avons mené des investigations, nous avons le gros des informations sur ces cas. Et ce qui nous manque, c'est ce qui est arrivé en dernier lieu. Parce que nous n'arrivons pas à savoir si la victime existe encore ou si la victime a été tuée. Ça, c'est l'information qui nous manque. Parce que lorsque nous sommes conscients que la victime a été tuée, là, nous ne pouvons plus parler de disparition forcée. Plutôt, ce serait un cas d'exécution extrajudiciaire. Mais tant que le corps, tant que le cadavre n'a jamais été retrouvé, nous continuons à appeler cela un cas de disparition forcée et nous gardons toutes les informations sur les dernières traces de la victime. Mais s'il faut dire s'il y a eu des cas que nous avons documentés où les victimes serait réapparu après. Non, jusqu'ici, sur les 7 cas documentés, nous n'avons aucune information d'une victime qui serait réapparue, qu'on aurait retrouvée après notre enquête. Elle reste toujours disparue. On ne connaît toujours pas où se trouvaient ces victimes. Toutefois, je dois dire ici que dans certaines situations où nous avons lancé des alertes, il est arrivé que lorsque des personnes avaient été enlevées et que nous avons lancé dans les plus brefs délais une alerte, qu'il a été possible de les retrouver. Et nous avons eu même des témoignages où des victimes nous ont dit qu'elles étaient dans des endroits obscurs où elles ne connaissaient même pas réellement où elles se trouvaient. Mais après une alerte que nous avons lancée, par exemple sur Twitter ou sur Facebook, les ravisseurs commençaient à dire « mais c'est déjà connu, c'est dangereux » et ils arrivaient parfois à libérer les victimes. Ces cas, nous les connaissons, mais sur les cas de disparition forcée sur lesquels nous avons déjà enquêté, où il y a eu une documentation où cela a été publié, il n'y a jamais eu de retrouvailles de la personne, de la victime sur laquelle nous avons travaillé. Le drame d'une disparition forcée, c'est que justement, on ne trouve jamais le cadavre. Parce que si on parvient à trouver le cadavre, ce n'est plus une disparition forcée. Là, on va parler d'exécution extrajudiciaire. Donc, dans tous ces cas documentés par la campagne d'Ondeza, on n'a jamais vu de corps, on n'a jamais vu de cadavre. C'est pourquoi nous continuons à demander, de même que les proches, les familles des victimes, continuent à demander aux autorités burundaises de dire ce qu'il est advenu des personnes arrêtées ou des personnes enlevées par le renseignement. Parce que pour les familles, c'est très dur. Et les familles ne savent pas si elles doivent continuer à chercher, à attendre le retour de la victime, ou si elle doit commencer le deuil et se dire c'est fini, on ne verra plus le membre de notre famille, il est mort, on ne le verra plus. Donc la famille est ballottée entre l'espoir de retrouver le sien et le désespoir de croire que c'est fini, que la personne est morte, et la famille ne sait pas s'il faut faire le deuil ou s'il faut continuer à demander. Alors, s'agissant des corps qui sont retrouvés ça et là, oui, il y en a pas mal. Des corps sont retrouvés un peu partout dans le pays et ces corps ne sont, pour la plupart des cas, ne sont jamais identifiés et les autorités burundaises ne font rien pour que les corps soient identifiés. Dans la plupart des cas, les corps ont été enterrés à la va-vite. Sans aucune formalité sanitaire, soit qu'il devrait y avoir des examens médicaux par des médecins légistes, soit à faire un appel, communiquer au public qu'il y a un cadavre qui a été découvert, donner sa description pour que les familles qui ont perdu des leurs puissent venir voir si ça ne pourrait pas être un membre de la famille. Tout cela n'a jamais été fait. Les autorités, à la base, s'empressent de faire enterrer les corps et ils sont enterrés, bien sûr, à la va-vite et sans dignité, comme cela devrait être fait dans le cas d'un membre d'une famille connue. Donc voilà comment les choses se passent. C'est tout un système qui est en place, toujours comme je disais, pour empêcher que les auteurs des disparitions forcées soient connus ou que des crimes soient aussi connus. Tout est fait pour camoufler, pour empêcher la connaissance des crimes qui sont en train d'être commis en ce moment au Burundi. Dans la majorité des cas sur lesquels nous avons mené des enquêtes, nous arrivons à connaître plus ou moins l'auteur de la disparition forcée. Bon, il est vrai, il y a beaucoup de cas où les auteurs ne sont pas connus. Il y a pas mal de cas où nous savons juste que ce sont des policiers, ce sont des agents du renseignement qui sont venus, ou des personnes qui sont venues à bord des pick-up de la police ou des voitures du Service national de renseignement. Généralement, il s'agit, la description donne des voitures de marque Toyota TI aux vitres fumées ou teintes, ou bien ce sont des pick-up aux vitres fumées. Ce sont des véhicules qui sont très utilisés par le renseignement burundais dans les opérations de kidnapping, d'enlèvement des victimes. Là, nous arrivons juste à avoir l'idée d'une opération qui, visiblement, est une opération du renseignement burundais. Mais là, nous ne connaissons pas parfois l'auteur de la disparition. Mais dans la majorité des cas, nous sommes parvenus à connaître l'auteur de la disparition, la personne qui commandait l'opération de kidnapping ou d'arrestation. Et je dois dire aussi que dans les premières années de la répression, en 2015, en 2016, dans la plupart des cas, les personnes, les victimes étaient arrêtées au vu et au su de leurs proches, de leurs camarades, de leurs compagnons de lutte. Les personnes étaient arrêtées chez elles, à la maison, ou bien au cours des manifestations dans des endroits publics. Et là, il y avait des témoins qui savaient que c'est telle personne qui a arrêté la victime. Mais en 2018, c'est là où nous commençons à constater des cas où le renseignement cherche à se cacher, où il est difficile d'identifier l'auteur de la disparition, où les victimes sont appelées à une rencontre dans une maison quelconque, dans un endroit où il n'y a pas de témoins, et nous savons seulement la personne qui a appelé généralement, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite. On sait que la personne a répondu à un appel et après, on a pu retrouver cette personne. C'est des cas qu'on a observé principalement en 2018, ce qui signifie que le renseignement commence aussi à affiner les opérations d'enlèvement, de kidnapping des victimes pour éviter de laisser des traces. Nous avons aussi constaté que le renseignement burundais, la police burundaise, les autorités burundaises ont intimé l'ordre aux compagnies de téléphonie mobile de ne plus favoriser ou faciliter l'obtention des relevés téléphoniques des victimes. Aujourd'hui, c'est très difficile de demander à des agents des compagnies de téléphonie mobile de nous aider à avoir les relevés téléphoniques d'un numéro de la victime. Alors que en 2015, en 2016, en 2017, c'était encore très facile. N'importe quel agent d'une compagnie de téléphonie mobile pouvait nous aider dans nos enquêtes. Alors tout cela signifie que les autorités burundaises essaient de trouver autant que possible des mécanismes qui aident à cacher les auteurs des disparitions forcées.